Vous êtes sur RTL.
Marion Ferrer, RTL Grand Soir.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Grand Soir. À la une, Amazon réplique à la taxe GAFA et s'attaque aux entreprises françaises qui utilisent sa plateforme de vente en ligne. Les députés de la majorité ciblent de la contestation. 14 permanences ont été vandalisées ces derniers jours. L'une des raisons de la colère, le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, voté par la majorité. Les agriculteurs français jugent que cet accord leur est défavorable. La fin du mystère dans l'Aube, où une vingtaine d'animaux avaient été retrouvés massacrés dans une ferme pédagogique. Ce sont des adolescents qui les auraient torturés. Le virus Ebola a fait une deuxième victime en République démocratique du Congo. Le Rwanda, pays frontalier, s'inquiète.
Marion Ferrer, RTL Grand Soir.
La réplique d'Amazon à la taxe GAFA est tombée. La filiale française du numéro 1 du commerce en ligne va faire payer à ses clients cette taxe qui vise les géants du numérique en la répercutant sur ses tarifs. Cela concernera les entreprises françaises qui travaillent avec Amazon. Raphaël Prado est porte-parole d'Attaque et de l'organisation Alter mondialiste. Il dénonce l'attitude d'Amazon.
Le problème, c'est que Amazon sait très bien que c'est une taxe symbolique. C'est assez mesquin. Ces GAFA sont des multinationales qui sont énormes, qui sont les plus grosses entreprises du monde, les plus grosses capitalisations boursières, et qui ne payent pratiquement pas d'impôts. Et en fait, quand on essaie d'appliquer un micro-impôt sur elles, elles essaient de répercuter ça sur d'autres personnes. Donc c'est assez choquant. Ça montre qu'effectivement, les multinationales sont prêtes à tout pour ne pas payer d'impôts et qu'il faut une réelle volonté politique des États pour leur imposer un rapport de force. Et quand les multinationales voient qu'on leur impose une taxe qui est symbolique, peut-être qu'elles se disent qu'il n'y a pas réellement de volonté politique de mettre fin à leur évasion fiscale. Donc c'est ça que ça montre aussi. C'est aujourd'hui, effectivement, on a une situation où les multinationales sont plus puissantes que les États.
Des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Les députés de la majorité sont dans le viseur de la contestation. 4 nouvelles permanences ont été vandalisées aujourd'hui, 3 dans le Val d'Oise et une à Paris, celle du délégué général de la République en marche, Stanislas Guerini. Des dégradations hostiles, souvent au CETA, ce traité de libre-échange controversé entre l'Union européenne et le Canada. En tout, 14 permanences ont été saccagées en quelques jours. Et Marie Mollet, dans certains départements, les agriculteurs revendiquent leur participation à ces vandalisations. C'est le cas en Haute-Saône.
Oui, et c'est ce qu'ils appellent une opération coup de poing. Jeudi dernier, à la nuit tombée, une vingtaine d'agriculteurs se présentent devant la permanence de la députée En Marche Barbara Bessot-Ballot à Vesoul. Ils sont munis de pelles, de ciment et commencent à murer la porte du local. La scène est immortalisée dans des photos et l'action revendiquée par Emmanuel Ebichère, président du syndicat FDSEA Haute-Saône, qui a participé.
Je pense qu'il fallait le faire. Le mur, il était démonté. Aujourd'hui, on n'y voit plus rien du tout. Donc, c'était vraiment symbolique. Ça aurait pu être beaucoup plus dur. C'est pas la première fois qu'il y a des actions envers des parlementaires. Ils n'ont pas à avoir peur. C'est simplement que, voilà, il y a une revendication qui se fait. On vit très mal le fait, on a l'impression d'avoir été trahi.
Trahi, dit-il, parce que 2 jours plus tôt, leur député a voté pour l'accord du CETA. Mais pour Barbara Bessot-Ballot, il ne s'agit pas là d'un simple geste symbolique, mais bien d'une pression, d'une intimidation.
Non, on ne doit pas s'appliquer ces symboles-là. C'est clair, ce n'est pas la démocratie. Le député doit avoir la liberté de voter quand il pense qu'il doit voter telle ou telle chose. Sinon, ce n'est plus la démocratie. Le lobby a été trop important sur le résultat de vote des députés.
Et la députée a porté plainte. D'autres membres de syndicats agricoles ont aussi ouvertement assumé des dégradations de permanence, comme dans l'Oise ou dans la Creuse.
Merci Marie Mollet. L'incendie à Générac dans le Gard, la piste criminelle, est envisagée. Le procureur de la République de Nîmes l'a confirmé ce soir à RTL. Selon les premières observations, le feu a été provoqué par une cause humaine et volontaire. Pour rappel, plus de 500 hectares sont partis en fumée dans le Gard. Un commandant de police de l'Essonne a été mis en examen pour harcèlement sexuel, mais aussi harcèlement moral et violence volontaire. Des faits qui auraient duré au moins 3 ans entre 2015 et 2018. L'une de ses jeunes collègues a finalement porté plainte. Le commandant a été suspendu de ses fonctions. Dans l'Aube, la fin d'une énigme après la découverte d'animaux massacrés dans une ferme pédagogique de Méry-sur-Seine. En début de semaine, une vingtaine de poules, de lapins, de dindons avaient été retrouvées mortes, déchiquetées, découpées, écrasées. Des scènes de torture qui sont le fait de 4 adolescents sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Ils ont été présentés au juge cet après-midi. Et sur place, Sinamir, les propriétaires de la ferme et les habitants sont toujours très marqués par les événements.
Oui, l'endroit venait en plus d'ouvrir au public il y a un mois, un chantier fraîchement fini au milieu des champs et de ce petit paradis de verdure de la campagne de l'Aube.
Donc là, c'est l'enclos des chèvres.
Entre les enclos à moitié vides, Nathalie Cabani et ses équipes refont effectivement sans cesse, depuis qu'ils savent ce qu'il s'est passé, le film de cette soirée.
Là, on avait l'enclos de notre lapin et des poules. Donc là, ils ont lacéré le lapin. Enfin voilà, il était dans un état lamentable. Il l'avait laissé là au milieu de l'allée. Notre petit coq gaulois, là, donc il va mieux. C'est assez trash, c'est difficile encore pour moi d'en parler.
Les gendarmes ont retrouvé très vite la piste des jeunes fêtards présentés à un juge des enfants cet après-midi. Les canettes de bière, nombreuses notamment laissées sur le site, ont été autant de projectiles et de preuves.
Comment est-ce possible d'arriver jusque-là? Autant on peut faire des bêtises, mais cette tuerie, on n'arrive pas à le comprendre.
Une émotion partagée en France mesurable au tas de centaines de courriers qui débordent de la boîte aux lettres de la ferme.
Donc ça, c'est un centre de loisirs qui est venu il y a 15 jours. Et voilà le magnifique dessin qu'ils nous ont envoyé. Donc ça a été notre rayon de soleil de la journée.
À cela s'ajoutent près de 2000 dons en ligne, plus de 20 000 euros déjà et des promesses de dons d'animaux par centaines, sans oublier ce carnage. La ferme pédagogique de Méry promet déjà de rouvrir ses enclos d'ici deux semaines.
Reportage de Sinamir à Méry-sur-Seine. Du nouveau dans l'enquête sur le projet d'attentat déjoué ces derniers jours, une lettre d'allégeance à l'État islamique a été retrouvée chez l'un des trois hommes mis en examen, les deux autres étant toujours en prison. Une semaine après la vague de canicule, les autorités sanitaires dressent un premier bilan. Les messages de prévention martelés à la radio et à la télévision ont, semble-t-il, été efficaces, Sophie Jousselin, car si les consultations à l'hôpital ont grimpé sur cette période, rien d'alarmant.
Oui, ce sont surtout les seniors, les plus de 75 ans, qui se sont rendus un peu plus nombreux aux urgences entre le 22 et le 28 juillet. La hausse est d'environ 5% au niveau national. Ça représente 1300 hospitalisations. Ce sont principalement des cas d'hyperthermie qui ont été enregistrés. Alors, le chiffre est impressionnant. La hausse est de 427%. Mais ce sont moins de 1000 personnes qui sont allées aux urgences pour un coup de chaleur. La déshydratation est la deuxième cause de passage dans ces services médicaux pendant cette période de canicule. Les chiffres de SOS Médecins reflètent la même tendance, avec une hausse de 4% des interventions auprès des plus de 75 ans pour des pathologies liées aux fortes chaleurs. Alors pour l'instant, on ne sait pas si ces quelques jours de canicule ont entraîné une surmortalité. On ne le saura qu'au mois de septembre. En revanche, on devrait avoir les chiffres des fortes chaleurs du mois de juin d'ici quelques jours.
Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL.
RTL Grand Soir
avec Marion Ferrer.
RTL, il est 22h07, direction désormais le Japon, où la science-fiction rejoint la réalité, puisque des embryons hybrides à partir d'êtres humains et d'animaux vont bientôt y être créés. Ces travaux sont une première, ils seront menés par un chercheur généticien. Le but, pallier le manque de dons d'organes. La manipulation est actuellement interdite en France, mais cela pourrait changer avec la nouvelle loi bioéthique. Hervé Schneeswessen est le président du comité d'éthique de l'INSERM, et pour lui, c'est une bonne nouvelle.
C'est ce qui va se passer également avec la loi française, puisque la loi de bioéthique actuelle interdit la création d'embryons chimériques. Dans la prochaine version, si elle est adoptée, il est indiqué que ce qui est interdit, c'est l'introduction de cellules animales dans un embryon humain. Et donc, par défaut, on peut en conclure que l'inverse, c'est-à-dire l'introduction de cellules humaines dans un embryon animal n'est pas interdite. C'est de la recherche fondamentale. On greffe une cellule d'une autre espèce dans une seconde espèce. On essaierait d'obtenir un pancréas humain chez un cochon et on récupérerait ce pancréas pour le greffer chez un humain diabétique de type 1, par exemple. On a d'excellents biologistes du développement, que ce soit à l'INSERM, au CNRS. Il n'y a pas de raison que ces excellents spécialistes ne puissent pas développer leurs recherches dans un niveau de compétitivité à l'international qui soit normal.
Propos recueillis par Jacques Seret pour RTL. En Afrique, la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a été fermée pendant 8 heures. La décision avait été prise par le Rwanda au lendemain d'un deuxième décès lié au virus à Goma, la ville congolaise frontalière. La victime est un homme, un orpailleur. Sa femme et l'une de ses filles ont également été testées positives à Ebola, ce qui porte le nombre de cas à 4. En un an, cette fièvre hémorragique a déjà fait plus de 1800 morts au Congo, Pierre-Julien.
Oui, depuis ces deux morts avérées à Goma, un vent de panique commence à traverser cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo, qui compte près de 2 millions d'habitants. Jusqu'à présent, l'épidémie était circonscrite dans les régions rurales, les petits villages. Nombreux sont ceux qui exigent désormais que les autorités dressent des barrages routiers afin d'empêcher la libre circulation entre Goma et Butembo, le foyer principal de l'épidémie, et qu'elles imposent un contrôle sanitaire aux équipages et passagers des bateaux qui assurent les liaisons sur le lac Kivu. Gassana Bouchard, responsable adjoint d'urgence de Médecins Sans Frontières, qui revient justement de RDC.
Ça crée une panique. Nous, on travaille avec la population pour qu'il n'y ait pas ça, en fait, dans les centres de traitement. On a des traitements qui montrent une efficacité assez haute et aussi un vaccin qui est assez efficace. Malheureusement, ce vaccin, il n'y a pas assez de doses pour faire une vaccination de masse. Et en plus, on manque encore un peu de transparence pour savoir le nombre total des doses présentes dans le monde.
Alors, pour le moment, aucun cas a été signalé à Kinshasa, la capitale, qui est à 2 heures d'avion de la région touchée.
Pierre Julien pour RTL. En sport, il y avait du football ce soir et Strasbourg fait un pas de plus vers la Ligue Europe. Les Alsaciens ont rencontré le Maccabi Haïfa 2-1 pour les Israéliens. Mais grâce au match aller remporté 3-1, Strasbourg se qualifie pour le troisième tour des éliminatoires. En cyclisme, Julien Alaphilippe va tenter de prendre sa revanche samedi au départ de la classique de San Sebastián dans le Pays Basque espagnol, puisque Egan Bernal, le Colombien, vainqueur du Tour de France, aura lui aussi de la partie. On rappelle que le Français, porteur du maillot jaune pendant 14 jours, est le tenant du titre sur cette course. Les courses hippiques, cette fois, demain, elles seront à Cabourg. Bernard Decroix vous conseille de jouer le 16, le 14, le 11, le 8, le 7, le 2, le 5 et le 6. Sa dernière minute, le numéro 11. La météo de votre vendredi avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Alors demain, une journée plus calme, on oublie les orages dans le sud-ouest. Seuls les reliefs des Alpes conserveront un temps humide dès le matin et orageux l'après-midi. Sinon, ce sera une belle journée après dissipation des nuages sur l'est, sur les bords de Manche, dans le sud-ouest le matin. Le soleil va finir par s'imposer sur l'ensemble du pays. Bon, il sera peut-être un petit peu moins généreux entre la Bretagne et le Hauts-de-France, mais rien de bien méchant. Et on aura peut-être quelques gouttes également sur l'extrême nord du pays. Côté température, température estivale attendue demain de 22 à Lille à 34 à Montpellier, 24 à Caen, 27 à Paris, 28 à Dijon, 29 degrés à Clermont-Ferrand et 33 à Marseille.
Merci Peggy.